Quand l'île-dieu mettait la mer en bois.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Quand l'île-dieu mettait la mer en boîte.
Épisode 3, le petit poisson d'argent. Dans l'épisode précédent, on a raconté la mutation de Port-Breton en Port-Joinville. Et il semblerait que c'est un petit poisson, la sardine, qui change le destin de l'île-dieu. C'est vrai ça?
La sardine, Sardina pilcardus de son nom savant, est un petit poisson fuselé de 10 à 15 cm de la famille des Clupéidés. Rien que ça. Fréquent sur les côtes bretonnes et vendéennes au printemps et en été, son corps argenté lui vaut l'appellation familière de « poisson d'argent ».
Les origines de cette petite pêche côtière restent un peu confuses. Mais tout laisse à penser que pendant des siècles, la sardine a constitué sur les côtes françaises l'aliment de base des familles modestes à qui elle apportait, de mai à septembre, un véritable soulagement alimentaire, comme l'étaient les congres pêchés l'hiver dans l'estran à l'aide de palangres,
les lignes de fond avec hameçons,
placées en travers des courseaux,
ces espaces libres et sableux entre deux pointes de rochers dans l'estran qui sont des lieux de passage pour les poissons à marée haute.
En Bretagne, le premier témoignage évoquant la consommation de sardines date du début du XVe siècle. Mais la pêche de la sardine ne semble véritablement prendre de l'importance sur les côtes sud et ouest de la région qu'au XVIIe siècle, à Belle-Île, Groix, Port-Louis, c'est-à-dire l'Orient, et plus particulièrement dans la baie de Douarnenez.
À cette époque, le poisson, quand il n'est pas mangé frais et sur place, ne peut pas être conservé au-delà de quelques jours. Il faut le fumer ou le saler abondamment pour le rendre transportable.
Et ça se fait comment à cette époque-là ?
Inspiré par des techniques ancestrales développées autour de la Méditerranée, où les Romains conservaient déjà la sardine dans la saumure, une préparation liquide d'eau et de sel, les populations côtières vont développer un procédé rudimentaire mais efficace qui allie deux ressources locales, le sel et la sardine. C'est la conservation par pressage.
Dès leur sortie du bateau, les sardines sont lavées à l'eau, saupoudrées de sel et exposées à l'air sur des corbeilles clayonnées. Une fois sèches, elles sont ététées et soigneusement rangées au fond d'un baril que l'on remplit en alternant couches de sardines et couches de sel. Une fois le baril plein, les poissons sont pressés sur un faux fond de bois percé d'un trou pour en évacuer l'eau de saumure résiduelle et l'huile de poisson. Quand l'écoulement cesse, on complète s'il le faut le baril par de nouvelles couches de sel et de sardines avant de le fermer hermétiquement.
Comme ça, les sardines peuvent être conservées 4 mois en moyenne, voire davantage. Elles peuvent aussi supporter de longs voyages depuis la Bretagne vers Nantes, Bordeaux ou même l'Espagne. Sur les côtes atlantiques, se met alors en place un artisanat de la conservation, la presse, qui stimule le développement de la pêche de la sardine.
À la veille de la Révolution, entre le Conquet et le Croisic, on dénombre 1800 chaloupes sardinières. Et les Bretons expédient la sardine partout en France, avec la méthode de pressage. Cette industrie bretonne, dans laquelle le port de Concarneau tiendra longtemps le haut du pavé, essaime progressivement sur tout le littoral atlantique.
En Bretagne comme en Vendée, la technique de la presse à sardines, première étape dans la conservation du poisson, se maintiendra pendant un siècle, grosso modo 1750-1850, avant d'être supplantée par un nouveau procédé plus élaboré encore, et surtout plus fiable, la conservation par stérilisation en vase clos ou apertisation.
Oh, ça se complique.
Un peu, ou plutôt ça évolue. En 1795, c'est un certain Nicolas Appert, cuisinier-confiseur de son métier, qui invente un procédé nouveau qui va révolutionner la conservation des aliments.
C'est le principe de l'apertisation ou conservation par stérilisation en vase clos. Les aliments sont enfermés dans un récipient étanche, souvent en grès à l'époque, qui est plongé dans de l'eau maintenue à une température élevée pendant un temps donné. La chaleur permet de détruire les micro-organismes responsables de la fermentation et de la détérioration des matières organiques. Cette technique permet de conserver durablement les aliments.
Un peu comme les confitures alors?
Oui, si on veut. Ce procédé de conservation est très rapidement adopté pour le traitement du poisson comme alternative au fumage, au salage ou au pressage. Grâce à lui, les petits ateliers artisanaux disséminés sur la côte atlantique développent leur production et deviennent de véritables petites industries. Ce sont les confiseries.
Des confiseries ? Comme pour les bonbons ? Quel rapport avec les conserveries ?
Confire, c'est mettre un aliment dans une condition qui le conserve. Ça peut être du sucre pour les confiseries sucrées, mais ça peut être autre chose.
À Nantes, au début du 19e siècle, une famille, les Collins, confiseurs, producteurs entre autres aliments de sardines cuites à l'huile, a l'idée d'optimiser la pertisation de ses conserves en améliorant le conditionnement du poisson.
Pour ce faire, le fils, Pierre-Joseph Collin, expérimente une boîte constituée d'une feuille très mince de tôle étamée soudée à l'étain, qui permet également de transporter les sardines beaucoup plus aisément que les pots de grès qu'utilisait son père précédemment.
La gamme de produits mis en conserve par les Collins était variée. Sardines, viande de bœuf et de veau, petits pois, fruits. En 1824, Pierre-Joseph Collin ouvre à Nantes la première confiserie de sardines. Les sardines y sont frites dans l'huile d'olive, puis conservées dans une boîte en fer blanc. Le succès de ce nouveau produit alimentaire est immédiat.
Les confiseries de sardines remplacent les presses et se multiplient. L'installation de cette nouvelle industrie à Nantes déclenche aussi le développement de toute une filière industrielle, comme l'étiquetage, l'outillage, l'emballage. Et, en quelques décennies, exploitant à la fois les ressources maraîchères de ses alentours et la production des ports vendéens, Nantes devient la capitale de la conserve.
En 1883, l'annuaire du département indique la présence de 24 conserveurs. Dans la deuxième partie du 19e siècle, les conserveries de poissons poursuivent leur essor. La demande s'accroît dans des proportions spectaculaires. Le prix d'achat de la sardine s'envole. La sardine à l'huile devient un produit de luxe, souvent même hors de portée des ouvrières qui la mettent en boîte.
Tu nous donnes quelques chiffres pour se rendre compte de cet essor ?
Oui, en 1850, on compte 25 conserveries de poissons en France, dont la plupart à Nantes, pour 3 millions de boîtes fabriquées. En 1876, soit seulement 26 ans plus tard, 150 fabriques de conserves sont installées entre Douarnenez, Finistère, et les Sables-d'Olonne, Vendée. Elles produisent 56 millions de boîtes par an. Elles emploient environ 13 500 femmes et 1 500 ferblantiers, les fabricants de boîtes en fer blanc.
En 1879, la France produit 82 millions de boîtes. Et dans les ports, pour satisfaire la demande des industriels, la croissance de la pêche de la sardine est considérable.
Oui, c'est vraiment impressionnant. Et alors, on fait voyager les sardines depuis la côte jusqu'aux fabriques ?
Pour mettre la sardine en boîte, la situation géographique de Nantes, à plus de 80 km de la côte, n'est pas idéale. C'est un poisson fragile, dont la chair est vite corrompue. Dans un premier temps, les sardines sont acheminées depuis la côte par le service rapide des voitures suspendues, pour éviter les chaos et la lenteur du transport en charrette. Mais très vite, il s'avère évident pour les industriels que, pour garantir la fraîcheur et la qualité de leur approvisionnement, c'est plutôt l'usine qui doit s'installer à proximité des lieux de pêche.
Plutôt logique, ça, c'est sûr.
C'est dans ce formidable déploiement industriel que s'inscrit l'installation des premières confiseries de poissons sur la côte vendéenne.
À Saint-Gilles-sur-Vie, en 1846.
Au Sables-d'Olonne, en 1852.
À L'Île-Dieu, en 1862.
À Croix-de-Vie, en 1865.
Et enfin à Noirmoutier, en 1882.
La sardine devient dès lors, en Vendée, l'un des principaux produits du pays.
Et sur L'Île-Dieu, comment ça se passe ?
Sur l'île, la pêche à la sardine ne fait pas partie des activités de pêche traditionnelles. La plupart des marins sont embarqués sur des unités de pêche au large, pratiquant la pêche au thon à la ligne traînante pendant la période estivale, et, pour certains, la grande drague d'hiver de novembre à mars.
La sardine est pêchée au printemps et en été par de petites barques qui, toute l'année, pêchent aux abords de l'île des poissons variés, destinés à la consommation locale. À la belle saison, elle abonde autour de l'île et des dizaines de bateaux bretons viennent y débuter la campagne de pêche. La sardine apparaît en effet généralement au début du mois de mai le long des côtes vendéennes, avant de remonter vers le nord du golfe de Gascogne.
Les pêcheurs bretons doivent souvent attendre le mois de juillet pour la lever à proximité de leur port d'attache. Aussi, bon nombre d'entre eux viennent à la rencontre du poisson et débutent leur campagne estivale à partir de l'un des ports vendéens. Cette transhumance bretonne fait jouer à plein son rôle de port de relâche à Port-Joinville, qui accueille tout au long de la saison de nombreuses chaloupes sardinières venues cabaner dans la passe, se procurer des vivres ou s'abriter du mauvais temps.
Entre 1850 et 1870, les campagnes sont bonnes. Certaines peuvent même être qualifiées d'excellentes. L'affluence des sardiniers bretons, mais aussi des sablais, des girafes, Saint-Gilles, des noirs moutrins dans les eaux de l'Île-Dieu, situées au cœur des lieux de pêche et disposant d'une abondante ressource en main-d'œuvre féminine, finit par attirer l'attention des industriels.
Après les confiseries, arrivent les usines. C'est l'effet boule de neige.
On se retrouve au prochain épisode pour la suite.
Dieu mettait la mer en boîte.
Avec les contributions de
recherche, documentation, texte, Pascal Cariou.
Voix, Sylvie Monlahuc.
Et Clément Bertrand.
Adaptation, réalisation, Maya Tubiana-Perro.
Musique, Clément Bertrand.
Design sonore et mixage, Philippe Turbet.
Moyen technique, Neptune FM. Une production rendue possible par les services culturels et patrimoine de la municipalité de l'Île-Dieu. Produit par Aerials. Réalisé 100% à l'Île-Dieu.